Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 34e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Blaise Pascal et la question « Tout le malheur des hommes vient-il du divertissement ?» Dans les années 1980, le critique américain Neil Postman publiait un essai intitulé « Amusing ourselves to death », « Se divertir à en mourir ». Il y montrait comment la logique de l'entertainment avait gagné tous les domaines de la culture, aussi bien de l'information que de la politique. Il faut que tout devienne spectacle, déjoue l'ennui, multiplie le zapping. Notre monde est à feu et à sang, on en fait un plaisant son et lumière. Une comédie musicale sur les misérables nous permet de cacher la vraie misère ou de la tenir à distance après avoir copieusement pleuré sur sa peinture. De telles remarques semblent reprendre la pensée de Pascal sur le divertissement. Nous courons sans souci dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Mais le divertissement pascalien ne se réduit pas au spectacle ni aux passe-temps agréables. Il concerne aussi bien la guerre et les débats politiques les plus sérieux. De quoi s'agit-il donc? Écoutons donc l'un des plus célèbres passages des Pensées de Pascal.
Quand je me suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j'ai souvent dit que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de biens pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On achète une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche les conversations et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective et qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Quelques conditions qu'on se figure, où l'on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir. La royauté est le plus beau poste du monde. Et cependant, qu'on s'en imagine accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher, s'il est sans divertissement et qu'on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu'il est, cette félicité languissante ne le soutiendra point. Il tombera par nécessité dans les vues qui le menacent des révoltes qui peuvent arriver, et enfin de la mort et des maladies qui sont inévitables. De sorte que, s'il est sans ce qu'on appelle divertissement, le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui joue et qui se divertit. De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si recherchés. Ce n'est pas qu'il y ait en effet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir l'argent qu'on peut gagner au jeu ou dans le lièvre concours. On n'en voudrait pas s'il était offert. Ce n'est pas cet usage molle et paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu'on recherche, ni les dangers de la guerre, ni la peine des emplois. Mais c'est le tracas qui nous détourne d'y penser et nous divertit.
Fabrice Hadjadj, s'il est sans ce qu'on appelle divertissement, voilà l'homme malheureux. Quel est le contexte de ce texte?
Alors, c'est un texte assez fondamental que d'ailleurs l'édition Brunswick des Pensées de Pascal mettra un mot. Quasiment au début, vous voyez, cette réflexion sur le divertissement dans la partie qu'on intitulera « Misère de l'homme sans Dieu ». Bon, Il faut savoir que les pensées, c'est une série de liasses, de fragments, plus ou moins ordonnés, préordonnés par Pascal. Pascal aurait eu en vue au tout départ une apologie de la religion chrétienne, défense de la religion chrétienne. On pense que le texte que nous avons, les liasses que nous avons, sont moins fragmentaires en fait qu'elles étaient à l'origine. C'est la thèse de Martineau qui pense qu'il y avait en fait des dissertations beaucoup plus longues et que Pascal les a coupées en morceaux. Il n'était pas satisfait, justement, on pourrait dire, de ces dissertations, de leur ampleur, et qu'il fallait trouver une autre manière. Voilà. Donc, c'est pas qu'on a des fragments qui attendaient d'être mis en dissertation, c'est qu'au contraire, dans beaucoup de cas, on a aussi une dissertation qui a été mise en fragments. Et c'est très important de comprendre cette question du style chez Pascal. Vous voyez, c'était presque le caractère trop lisse ou trop parfait de la dissertation, on pourrait dire, ne lui convenait pas. Il voulait trouver autre chose. C'est pour ça que c'est aussi un laboratoire de la pensée, que ce texte des pensées, enfin ces fragments, et un laboratoire où on l'a même, d'une certaine façon, refusé une certaine réussite. Comme si, justement... l'apologie ne suffisait pas, comme si la défense classique de la religion chrétienne, il y avait beaucoup de textes apologétiques à l'époque, devait trouver une nouvelle voie. Donc ça, on est déjà. Et même, à la limite, c'est peut-être presque ça qu'on pourrait mettre en évidence ultimement ici, c'est qu'il peut y avoir même des défenses de la religion chrétienne, certaines formes d'apologie, qui est encore un divertissement. Voilà. C'est ça. Alors, la question, c'est comment sortir de ce qu'il appelle ici divertissement ? C'est-à-dire, ici, le mot ne renvoie pas au spectacle, et même si on a l'impression qu'il parle de nos écrans aujourd'hui, qui nous divertissent de considérer des choses sérieuses, ici, c'est simplement, il faut entendre divertir au sens d'abord d'opposer à, sans doute au mot convertir, mais il ne parle pas encore de conversion ici, il ne donne pas d'issue. Il dit... nous opérons des diversions par rapport à un regard sur notre condition misérable. Voilà. Nous sommes si misérables et nous ne trouvons pas de consolation que nous cherchons des cache-misères. Le divertissement, c'est le cache-misère.
Mais Fabrice Hadjadj, est-ce que vous dites qu'il ne propose pas d'issue, mais est-ce qu'au tout début, ce qu'il dit... être impossible, est-ce que ça ne serait pas pourtant une issue quand il dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Si on le savait, est-ce que là, il n'y aurait pas une issue au divertissement? Ou est-ce que même là, en fait, il y aurait aussi une possibilité de divertissement?
Bien sûr. D'abord, ce qui est absolument génial dans le monde contemporain, par-delà... ce que proposait déjà le livre ou le roman, peut-être à l'époque de Pascal, c'est qu'il y a aussi des critiques du roman, mais c'est qu'à travers la télévision, la guerre, le débat politique, l'agitation entrent dans la chambre où l'on se tient en repos. Donc maintenant, on peut être dans une chambre, et puis il y a cette agitation permanente. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'il faudra même, quand on quittera la salle de télévision, emporter avec soi l'écran, les écrans qu'on garde dans nos mains, on se promène avec des écouteurs, on veut toujours, toujours cette agitation, on veut toujours être diverti. On a de plus en plus peur du silence, on a de plus en plus peur de se recueillir, parce que se recueillir, c'est pas... Et c'est d'abord rencontrer des merveilles, etc. Non, c'est rencontrer son propre néant. Voilà. Et c'est pour ça que, non, on ne peut pas, il ne dit pas, tout le malheur des hommes, il suffirait... on ne peut pas se tenir en repos dans une chambre. À moins que... Voilà, mais c'est pas la question, c'est qu'on ne peut pas, parce que dès qu'on est dans le repos dans une chambre, notre cœur est agité. Nous sommes sans repos, parce que nous découvrons notre désolation, nous découvrons notre misère, nous découvrons non seulement la menace de notre pouvoir, il prend quelques exemples, la menace du pouvoir pour le roi, la menace de la mort, la maladie qui va venir, mais aussi la question du sens, la question de notre péché, de notre injuste, simplement que le monde est injuste et qu'on va mourir, mais que nous sommes nous-mêmes des causes de mort pour les autres. Et c'est pour ça que le ton ici, quand il prend tout de suite l'image du roi, et il dit un roi qui a tout, mais qui est sans divertissement, est le plus malheureux des hommes. Un roi sans divertissement sera le titre d'un grand roman de Giono. En fait, il est proche de l'Ecclésiaste. Ah, c'est l'Ecclésiaste, voilà. Moi, Salomon, je suis roi. L'Ecclésiaste, c'est pire que Job. C'est pas simplement j'ai des malheurs et c'est à cause de ça que je crie vers Dieu. C'est que j'ai tous les bonheurs du monde et ça n'est pas suffisant. Ça ne me console pas. Voilà. Et tout a l'air vanité. Alors voilà, d'où la fuite en avant dans toujours plus de divertissements. Et pas simplement des danses, pas simplement des fêtes, mais aussi la guerre, mais aussi les grands emplois, l'agitation du palais de justice. Mais peut-être les grands emplois, ça pourrait être l'épiscopat. Oui.
Mais il y a une forme de nécessité dans le divertissement, au sens où si on était aussi, d'une certaine manière, toujours dans le fait de se regarder, de considérer justement sa condition, enfin, on ne pourrait agir à l'extérieur. Et donc, pour que les choses avancent d'une certaine manière, est-ce que le divertissement n'est pas... Puisque tout en fait partie, même les emplois, pas forcément les grands emplois, mais même l'emploi de base, enfin, tout en fait partie. Et donc,
tout et rien. Parce qu'en fait, la question, c'est la question d'une attitude intérieure derrière ce divertissement. Tout peut être fuite. On peut très bien même faire de la religion chrétienne, et comme je vous le disais, d'un grand discours d'apologie de la religion chrétienne, un divertissement. Au sens où on nous présente ça comme une sorte de solution clé en main, sans la considération concrète de la misère de notre cœur. Et donc sans la possibilité de se tourner vraiment vers Dieu. On nous propose des solutions techniques, on nous propose une nouvelle idéologie, on nous propose tel ou tel remède, mais qui nous laisserait d'une certaine façon passif. Le mouvement propre de la conversion, c'est d'abord de découvrir son péché dans la lumière de la miséricorde et de se tourner vers le Sauveur. Enfin, en même temps, plutôt, en se tournant vers le Sauveur, on découvre qu'on était perdu. En se tournant vers la misère, on découvre sa misère. Donc l'idée, c'est que nous ne pouvons pas voir notre misère en face en dehors de la vraie rencontre de la miséricorde. Et donc, une fois qu'on a fait cette rencontre, tout peut être d'une certaine façon ressaisi. Pascal ne dit pas « il faut arrêter de faire la guerre, il faut arrêter d'avoir des grands emplois », il dit même pas « il faut arrêter », enfin, encore que ça pourrait être parfois sa pente, mais un divertimento de Mozart n'est pas forcément du divertissement au sens pascalien. Si ce divertimento s'inscrit dans la compréhension de la joie comme grâce, la compréhension de la mort, qui m'attend, mais qui va être toujours libérée par la possibilité d'une joie et même par l'avènement inattendu de la joie, comme souvent chez Mozart, eh bien, ça n'est plus comme tel un divertissement. Donc, vous voyez, tout peut être divertissement. Ça n'est pas seulement ce que nous appelons, nous, des divertissements. C'est le fait que nous concevons notre action, plutôt nous n'osons pas nous le dire en même temps, parce que ce qui est génial ici, dans cette pensée du divertissement, quand il s'agit de la guerre, c'est que le divertissement est au second degré. On ne veut pas voir que ce que l'on fait est une diversion. On se divertit de la diversion. On fait diversion sur la diversion qu'on est en train d'opérer. C'est-à-dire, la meilleure manière de ne pas voir notre misère, c'est de s'en détourner de telle sorte qu'on s'en détourne. Voilà. Et qu'on a l'impression d'être dans les choses sérieuses, voilà, dans les choses importantes, etc. Mais non, en fait, c'est là où l'enjeu, c'est le redéploiement en fait, d'une intériorité.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, tout le malheur des hommes vient-il du divertissement ? Fabrice Hadjadj, les résonances augustiniennes de ce texte...
Évidemment, c'est complètement en résonance avec les confessions d'Augustin, ça c'est indéniable. Et on pourrait même dire... avec l'opposition entre la, la, la veritas lucens et la veritas redarguens. C'est-à-dire, on peut être dans un ordre de vérité où l'on connaît le monde, où l'on explore le monde, on peut faire de la philosophie, en parlant même du péché, de la grâce, de ces choses. Mais si tout cela, j'en parle d'une manière purement objective, sans que mon cœur soit engagé, sans que je comprenne que le mystère de salut, c'est pour moi, sans que je comprenne je dois aussi confesser mon propre péché, entrer dans cette vie nouvelle. Et donc, je peux employer cette vérité qui éclaire le monde pour toujours fuir la vérité qui accuse mes noirceurs. Et c'est bien ça, hein, on retrouve ici, justement, d'une autre manière, hein, ce qui est au cœur de la pensée d'Augustin. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas dans cette, dans le projet apologétique, une certaine réduction de Dieu, au sens où on ne pourrait en fait se tourner vers Dieu qu'en prenant conscience de notre misère, et donc c'est un bien d'une certaine manière absolu, mais comparatif. Enfin, on en a besoin parce qu'on est misérable. Alors que Dieu, s'il était pleinement le bien, on serait attiré par lui, on aurait envie d'aller vers lui, indépendamment de notre misère. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, est-ce que cette forme d'apologétique n'est pas un peu limitante du bien qu'est Dieu ?
Alors, bon, moi, ce que je pense, c'est que justement, ce qui est en jeu ici, c'est de sortir de l'apologétique. Donc, c'est pas... Donc, ramener ce texte à une forme d'apologétique, voilà. Je pense que, justement, c'est ça qui fait que Pascal a pris ses ciseaux et a découpé ses dissertations d'apologétique. La question que vous posez, c'est une question décisive, à mon avis, dans l'événement pascalien. C'est-à-dire que, et on le verra dans d'autres textes, dans les épisodes suivants, c'est que il y a toute une apologétique qui consiste à aller vers Dieu à partir de la bonté de la nature, à partir de la beauté du monde, et on remonte vers Dieu. Et Pascal pense que la physique nouvelle ne permet plus cela. C'est un scientifique. Hein. C'est pas avec la relativité générale, avec la réduction du monde matériel à de l'étendue, à de la physico-mathématique, que l'on peut, à partir de là, remonter vers Dieu directement. Cela même, il va plus loin que Newton, parce que Newton pensait que voir le monde comme monde mathématique, c'était montrer un Dieu, ça allait vers Dieu, un Dieu grand mathématicien. Mais en fait, oui, un Dieu mathématicien, ça ne nous intéresse pas, en fait. C'est pas ça qui est en jeu. Nous, on veut un Dieu avec lequel on entre en contact, un cœur à cœur, une intimité. Et c'est ça son expérience à Pascal dans cette nuit de feu où il a cette expérience mystique et où il dit que le Dieu qu'il rencontre n'est pas le Dieu des philosophes, le Dieu même d'une théologie abstraite, mais le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est-à-dire un Dieu qui rencontre les personnes, le Dieu d'un tel, le Dieu de Pascal. Eh bien, à partir de ce moment-là, il dit qu'il pense que ça n'est plus par les merveilles de la nature que l'on remonte vers Dieu, on va dire même de la création que l'on remonte vers Dieu, comme toute avenue apologétique qui a existé, mais plutôt à partir de la découverte de la misère du cœur de l'homme. Et donc on a un renversement. Si on le voit du point de vue de l'apologétique, on voit qu'il y a un renversement effectivement de l'apologétique. On ne va pas comme les pères de l'Église, souvent des splendeurs du cosmos jusqu'à un auteur de ce cosmos, ça ne marche pas. Ça ne marche plus à cause de la physique moderne, mais déjà l'épître aux Romains disait ces païens sont remontés jusqu'à Dieu, mais ils ne lui ont pas donné l'action de grâce qui lui était due. Non, on doit avoir ce cœur à cœur. Donc on rentre dans cette intériorité. Et la découverte de sa misère, de telle sorte que mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Donc oui, on passe par cela. Mais est-ce que c'est une sorte de... Tout d'un coup, c'est de dire, on se présente à Dieu que comme des nécessiteux. Voilà, c'est ça ce que vous êtes en train de dire. Le problème, c'est là. Et donc presque, un Dieu sauveur, c'est un Dieu utile, peut-être trop utile. En réalité, on va voir que ce n'est pas exactement ça. Parce que la misère dont il s'agit n'est qu'une misère toute relative. C'est vraiment la misère qui est révélée par le don de la miséricorde. La découverte de cette misère est plus riche, on pourrait dire, que toutes les richesses du monde. C'est ça ce qu'il est en train de dire ce texte sur le divertissement. On le verra dans la prochaine émission sur les trois ordres. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout, on peut même ne même pas éprouver sa misère. Il faut que la miséricorde advienne pour qu'on découvre qu'on avait besoin d'un sauveur. Mais ce sauveur, en fait, de quoi est-ce qu'il nous sauve ? Pas simplement bon, de notre péché, etc., mais d'une sorte d'enfermement dans un monde complètement lisse, confortable, pour nous engager dans une grande aventure, au-delà même de nos forces habituelles. Et c'est ça qui est... Donc, je pense, derrière, il y a quand même une idée d'un don de Dieu, et pas simplement d'un remède, quoi.
Et Fabrice Hadjadj, si d'une certaine manière, l'intériorité est la seule voie... Comment, dans une société où le divertissement est omniprésent, enfin, qui est le propre du coup de toute société humaine, mais à des niveaux toujours plus puissants, oui. Comment retrouver, est-ce que le chemin de l'intériorité est toujours possible ?
Bah, c'est ça qui est effrayant, bien sûr, aujourd'hui. Hein, quand Bernanos disait que le monde moderne, pour dire le monde postmoderne, est une conspiration contre toute forme de vie intérieure, il parlait justement de tous ces robots qui ont pour vertu simplement de produire de la diversion, du bruit. Je veux dire, regarder, notre manière de revenir sur nos smartphones, de chercher une notification, de poursuivre des recherches, de voir des émissions, des documentaires, des choses intéressantes, de scroller sans fin le fil Instagram ou Facebook, etc. Oui, tout est intéressant, tout est... Mais vous voyez, on passe d'une chose à l'autre et ça a le motif d'une fuite. Le fuyard, c'est celui qui ne prend des choses que pour pouvoir s'en débarrasser, parce qu'il faut qu'il puisse continuer à fuir. Donc les choses aussi sont prises dans une accélération, précisément parce qu'on est dans ce que Max Picard appelait ce monde de la fuite. Tout à fait dans la suite d'Augustin et de Pascal. Et donc, comment ? Ça, c'est, il se peut que cette émission de radio même puisse être une diversion si l'auditeur, à un moment donné, ne rentre pas en lui-même. Comme le fils prodigue, vous voyez, voyant les cochons manger les caroubes et lui mourant de faim, bon, voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, il faut accepter le silence, il faut accepter l'ennui. Il faut accepter la lenteur aussi d'une lecture difficile, mais aussi il faut accepter, et non pas les fuir, les lieux des épreuves qui nous sont données. Parce qu'en fait, voilà, quand on est comme ça enfermé, eh bien, ce qui va nous arracher à cela, ce vont être les événements. Et il y a des événements. On peut se divertir comme on veut, une grande déception amoureuse, voire même, à la limite, un appareil qui tombe en panne, si on n'a que ça dans sa vie, vous voyez, bon. Et tout d'un coup, ça, ce sont des lieux, voilà, même les lieux d'une certaine humiliation, où on est ramené, à, voilà, au sens de notre misère, et donc en fait aussi, derrière cette misère, d'une disponibilité. Et quand on revient à la poussière, comme on dit « souviens-toi que tu es poussière hein, », voilà, au commencement du carême, c'est pour déjà entrer dans le mystère de Pâques, c'est-à-dire de ce Dieu qui a modelé l'homme à partir de cette poussière. Et donc, le sens de cette misère, c'est notre ouverture à la miséricorde. Le sens de cette misère, c'est le retour à la poussière qui va justement permettre ce remodelage par Dieu et donc une résurrection. Alors, voilà, est-ce qu'il faut attendre que les événements s'en chargent, qu'on soit frappé par une grande maladie, par un grand échec, par un grand... On pourrait dire qu'à ce moment-là, les chrétiens... attendre que le monde aille mal pour qu'on fasse appel à Dieu? C'est la question que vous posiez tout à l'heure. En fait, ça pourrait se passer autrement. Ça pourrait se passer autrement. C'est-à-dire découvrir la merveille que je suis, que je ne me suis pas donné mon être, qu'en fait, mon existence est un don et que c'est à partir de cette pauvreté ontologique, je ne me suis pas donné mon être à moi-même, que je peux prendre conscience du don de Dieu. Hélas, vous voyez, l'orgueil nous verrouille tellement, nous avons de tels cœurs de pierre qu'il faut y aller à la masse, quoi. Et c'est ça le vrai problème.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Blaise Pascal, Fabrice Adjad, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les samedis à 10h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.